Alors, notre prochain sujet, c'est l'élaboration des codes de pratique fonctionnelle éclairés par la science et fidèles aux valeurs de la société. Nous avons 4 conférenciers et je vais les présenter rapidement. Ils vont venir. Les noms sont à leur place. Le premier, c'est Ryder Lee. Il est responsable des relations avec les gouvernements fédéraux et provinciaux. Association des éleveurs de bétail canadiens. Il est au conseil du CNSAE depuis 2010. Jeff Urton, le premier des Jeff qui vont parler aujourd'hui. Tu vas même parler plusieurs fois. Alors, Jeff Urton, il est directeur des relations avec le milieu SPCA de la Colombie-Britannique et il représente les SPCA au CA du CNSAE. Ensuite, nous avons Tina Widowski. Elle est professeure de sciences appliquées du comportement et du bien-être animal au département des sciences et du bétail et de la volaille à l'Université de Guelph. Et elle est directrice du Centre Campbell pour le bien-être des animaux d'élevage à l'Université de Guelph. Ensuite, nous avons Fred Baker. Je viens de le rencontrer cet après-midi. Il est producteur de moutons et représentant de l'industrie ovine auprès du CNSA. Et lorsque je lui ai demandé d'où il venait, il a dit de Mountain en Ontario. Pour moi, la plupart des montagnes ont un nom, mais vous, votre montagne, on va l'appeler la montagne Baker. Alors, bienvenue, et c'est, je vais vous demander de mener le panel. Donc, Ryder et les autres, est-ce que vous pourriez prendre les questions sans que j'ai besoin de venir au podium? Merci. À toi.
Vous êtes le premier. Donc, je peux parler et utiliser tout le temps. Merci de cette présentation. Je ne vais pas me présenter. Alors, lorsqu'on m'a demandé de parler, on a mentionné 4 questions. Alors, Jeff s'y connaît en technologie. Alors, qu'est-ce que j'ai appris du processus des codes? J'ai participé dans le code du bœuf dès le départ. Il y avait du travail à l'interne et nous avons essayé de mettre à jour ce qui existait depuis 1991. Nous savions qu'il fallait que ça soit mis à jour il y a bien longtemps. Donc, c'est venu avant ce processus. Mais ensuite, nous avons décidé de constituer un comité et nous avons essayé vraiment de forcer le bras à certains. Et certains sont dans cette salle. Et ce que j'ai appris, il est très important d'avoir les bons acteurs autour de la table pour rédiger des codes de pratique. Il faut des gens qui puissent bien travailler en équipe et Alison va être d'accord avec moi. Mais il y a aussi l'écoute qui est importante parce que ce qui est ressorti de ce processus, c'est un changement, un exercice d'adaptation. Il faut avoir des gens qui ont de l'expérience. Ils ont tous leurs avis et le code est probablement différent de ce qu'eux auraient décidé. Donc, on doit pouvoir travailler en équipe et pouvoir écouter les uns et les autres. Alors, je ne sais pas si ces leçons vont être utiles pour ceux qui vont nous suivre, mais qui siège autour de la table, c'est important. J'ai aussi appris qu'on a peur d'être contrôlé par les autres au niveau des producteurs. Les producteurs ont beaucoup de fil à retordre ces jours-ci en ce qui a trait à la réglementation, l'utilisation de la terre, les réglementations, évidemment. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'eau? Quelle étiquette devez-vous mettre sur votre animal? Il y a des histoires sur la société protectrice des animaux. Il y a d'autres histoires d'applications dont on entend parler. Ce n'est pas seulement moi qui soigne mes animaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent me dire comment faire. Et bien sûr, les gens sont préoccupés. Autre chose qui n'est pas nouveau, mais dans ce processus, on a vu que notre industrie est très diverse. Celle des bovins, nous avons un pays vaste, nous avons des environnements différents, c'est très différent dépendant d'où on est dans ce vaste pays. Et ce qui est normal, c'est pas la même chose, le climat, la chaîne de valeur. Autre chose. Donc, ceux qui vendent aux consommateurs ne sont pas vraiment engagés dans les conversations liées aux soins aux animaux, jusqu'à un certain point. Nous l'avons vu dans notre code de pratique, nous n'avions pas un représentant des services alimentaires de détail, mais nous avons vu des étiquettes au cours du dernier mois et demi sur la mise en marché et le soin des animaux. Conseil national, nous sommes aux prises avec ça. Je vois qu'il y a une table pleine ici, mais j'espère qu'il y aura 3 ou 4 ou 5 tables, alors que ceux qui vendent des produits peuvent prendre des décisions. Ils le font avec l'industrie et ils font partie du processus, mais ils regardent de l'extérieur. Donc, je vais arrêter de parler de cela maintenant. On se pose des questions au niveau des producteurs. Pourquoi les gens sont tellement intéressés dans la façon dont on soigne nos animaux? Le bétail vient avant nos épouses, avant nos familles, avant nos vacances, avant le reste. Et qu'on me pose une question et qu'on me demande si je fais la bonne chose pour mes animaux, c'est très émotif. Et ce type de changement est difficile à avaler. Et on me pose des questions très directement. Et moi-même, je viens d'une ferme et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour les uns et les autres. Alors, comment est-ce qu'on a surmonté les grands défis? La gestion de la douleur. Il y a un processus qui est éclairé par la science et de faire un équilibrage entre ce que les uns et les autres pensent autour de la table. Les défis restent, la recherche continue, mais il faut aussi ce processus doit être ouvert et fermé en même temps. Il faut que ceux qui sont autour de la table puissent parler à leur groupe et que ça revienne sans que les médias s'en mêlent et qu'on en fasse des montagnes. Bon, je dois céder la parole. Bon, quel est le code? Qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on reste engagé? C'est la conversation que nous aurons avec ceux à qui nous vendons notre produit et avec ceux, c'est-à-dire les consommateurs. Des communications continuent de montrer que le code est positif pour le bétail et pour leurs propriétaires et ceux qui s'occupent de leurs animaux. Et la recherche montre comment nous faisons les choses et comment nous allons garder nos engagements. Et nous allons essayer de bien venir au terme avec tous ces changements. Et tout ceci grade à nos codes de pratique et avec la conversation que nous aurons à avoir. Ce n'est pas des choses que nous avons trouvées comme par hasard. On n'a pas changé pour changer non plus. Et on a regardé le côté pratique, la science, les possibilités et l'économie derrière tout cela. Bon, j'ai quelques diapos à vous présenter pour m'aider. C'est tout simplement un visuel pour vous parler un peu de notre expérience avec la Fédération canadienne des sociétés et qui participe à ça. Nous avons participé à l'élaboration de codes de pratique. Il y en a 2 qui viennent de commencer, 5 en banque. Et c'était une bonne expérience pour moi de participer à ces processus. J'ai siégé à ces comités moi-même et aussi j'ai regardé de plus loin pour voir comment ces démarches fonctionnent. Et je suis d'accord avec ce que Ryder nous dit, il faut avoir les bonnes personnes dans la salle ou autour de la table. Et il faut aussi féliciter les associations qui ont participé à ce processus et qui ont, se sont laissées regarder à la loupe. C'est bénévole, personne ne force ces associations à développer des nouveaux codes de pratique. C'est important pour ceux qui sont en dehors de l'industrie de connaître le contexte. La dernière fois, il y a eu, on voit qu'il est difficile d'être scruté par quelqu'un d'autre pour voir comment on mène notre secteur d'activité. Donc l'industrie mérite beaucoup de félicitations. Nos organismes du bien-être animal, notre mission est d'améliorer le bien-être animal, de promouvoir le traitement humanitaire des animaux et la bientraitance de ces animaux. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de travailler avec l'industrie, avec d'autres intervenants, de s'asseoir à la table, d'avoir ces conversations en personne. Maintenant, est-ce que ces nouveaux codes répondent aux tests du Conseil national d'être pratique, de refléter les attentes de la société? Si vous regardez le processus de l'élaboration du code, Susie Miller a parlé de la crédibilité du processus. Le nouveau processus du code a quelques éléments qui rehaussent la crédibilité par rapport aux autres codes. Et les comités scientifiques en font une grande partie. Mais les comités scientifiques ne prennent pas de décisions. Ils fournissent des conclusions après avoir examiné la documentation. C'est le comité des codes, c'est le groupe d'intervenants qui doivent s'engager dans ce dialogue et dans cette tâche difficile pour en arriver à un consensus. Oui, nous pouvons dire que ces codes de pratique sont bien éclairés par la science. Mais chaque code se retrouve dans un certain niveau, dépendant de ceux qui étaient autour de la table, et ça dépend de l'industrie qui fournit la toile de fond pour qu'on puisse créer un code de pratique avec des exigences plus fortes ou plus faibles. Est-ce que ces codes sont fonctionnels et fidèles aux attentes de la société? Bon, soyons honnêtes, ces deux notions s'opposent. C'est difficile d'en venir à un consensus. Il y a des pratiques que le public aimerait voir, surtout les membres du public qui s'occupent des questions de bien-être, comme les membres du SSPCA et d'autres. Et nous avons certaines attentes et les producteurs estiment que ce n'est pas pratique ni efficace du point de vue des coûts. C'est pourquoi on a une diversité autour de la table de participants. On élabore une ébauche à des fins de commentaires publics et c'est ce qu'on entend. Si nous sommes complètement en dehors de la plaque par rapport à ce qui est pratique, les producteurs vont nous laisser savoir. S'il y a certains standards qui ne sont pas assez progressifs, nous allons entendre parler du grand public. Alors, quels sont nos résultats? Si nous essayons d'atteindre des cibles pour chacun de ces codes et les exigences répondent à tout cela, c'est une petite cible dans un vaste champ. Et Edouard l'a dit dans sa présentation tantôt, ça vaut la peine de le faire. Il y a un parallèle à faire pour ce qui est des cibles pour les concepts de bien-être animal, pour ce qui est de ce que les gens pensent, qu'est-ce que cela veut dire pour eux. David Fraser de UBC a parlé d'un concept. Certains pensent à l'expérience de l'animal, comment l'animal se sent. D'autres selon sa fonction, sa santé. Et d'autres pour ce qui est du milieu naturel. Est-ce que l'animal se comporte de façon normale et nous allons essayer de répondre aux besoins de ces intérêts divers dans ce processus. Et cela va refléter d'où on a commencé. Les anciens codes de pratique, est-ce que oui, c'était un point de départ pour réunir les gens. Nous avons commencé à mettre quelque chose sur papier, mais lorsqu'on regarde les exigences et ce qu'il fallait faire, c'était vraiment répondre aux besoins biologiques des animaux. Est-ce que vos animaux ont de quoi manger, boire, certaines exigences pour les soins de santé des animaux? Et surtout au fil du temps, puisqu'il n'y a pas eu de mise à jour, on n'emboîtait pas le pas. Maintenant, je crois qu'on y arrive. On arrive plus près de la cible et chaque secteur a sa propre réalité pour ce qui est de ses systèmes de production, pour le climat économique aussi. Mais nous avons tous fait du chemin et l'industrie porcine qui n'a pas un code finalisé, cette ébauche fait beaucoup pour tenir compte des améliorations de leur l'état et des attentes de la société. Lorsqu'on examine les progrès, et vous pouvez voir l'exemple du code laitier, on félicite l'industrie. La Colombie-Britannique a beaucoup participé au code laitier et le BCSPCA. Même eux avaient quelque chose à dire de positif. Le BCSPCA, donc ça montre qu'on a fait beaucoup de chemin pour répondre aux attentes du public. On fait des progrès. L'industrie mérite d'être félicitée. Et la prochaine étape, et on a donné le temps, c'est de fournir des outils qui démontreront que l'industrie va se conformer au code. Parce qu'on a vu que si tout reste sur une tablette, on pourra perdre une certaine crédibilité que nous avons eue grâce à l'élaboration de ces codes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Tina Wodowski. Et je suis ici à titre de scientifique sur les comités scientifiques. J'ai eu le plaisir de siéger à 3 de ces comités. J'ai fait partie du code des porcs, de la volaille aussi et de la poule pondeuse. Nous avons eu notre première rencontre et ce que je vais partager avec vous, ce sont mes observations et mes expériences, puisque j'ai fait partie de multiples comités. On nous a demandé 4 questions auxquelles on va répondre. Qu'est-ce que nous avons appris du processus? Est-ce que j'ai appris? C'est que le Canada a mis au point un processus dont on peut être fier lorsqu'on partage cela avec les scientifiques de partout au monde. Et cette phase, ces phases de 4, les rapports des scientifiques, ensuite l'élaboration des codes avec les multiples intervenants. Nous devrions être fiers de ce que nous avons fait. Maintenant, les processus utilisés par les scientifiques eux-mêmes comportent des lignes directrices très rigides. Je peux emprunter une de vos diapos et je veux expliquer un petit peu. Les scientifiques aussi ont leurs propres idées et des partis pris. Dépendant des scientifiques, ils ont une perspective différente sur le bien-être des animaux. Et la façon dont ces comités sont formés apporte un équilibre pour le processus d'examen de la littérature scientifique. La première étape, c'était que les questions prioritaires sont examiné par le groupe de l'élaboration des comités. Les scientifiques sont choisis qui viennent de plusieurs milieux, ceux qui se spécialisent dans le comportement des animaux, ça comprend les vétérinaires et les scientifiques des animaux, avec tous ces spécialistes et leurs différentes perspectives. Nous avons bien sûr plusieurs idées qui entrent dans nos rapports. Les questions de bien-être prioritaires, le comité de développement des intervenants et celui des scientifiques, nous avions à peu près la même liste. Tout le monde comprend les enjeux et il faut savoir regarder vers la science. Une autre partie du processus qui apporte un équilibre, c'est qu'un des mandats pour le comité scientifique, c'est d'envisager la documentation à partir de toutes ces perspectives. Nous savons qu'il y a plusieurs façons de définir et d'examiner le bien-être animal. Et nous avons le mandat de regarder toutes les preuves. Si nous regardons les conclusions que vous retrouvez dans les rapports des comités scientifiques, beaucoup des conclusions viennent de plusieurs perspectives et parfois il y a des compromis à faire. Une fois que nous avons mis cela au point, le rapport du comité scientifique est rédigé, il est révisé par le comité du développement des codes. On s'assure à ce que la documentation ait été épluchée et ensuite c'est envoyé à d'autres scientifiques. Donc, examen par les pairs, il faut répondre aux préoccupations, aux questions ou aux questions laissées en suspens que les autres scientifiques autour du monde auraient. Comme scientifiques, on tire nos conclusions, mais comme Jeff dit, nous ne formulons pas de recommandations. Ce que j'ai appris, c'est que nous en savons beaucoup. Le comité des poules pondeuses, nous avons beaucoup de documentation là-dessus. Nous sommes bien au courant de ce qui se passe, mais bien sûr, il reste encore beaucoup à apprendre. Lorsqu'il y a des questions sur les recommandations, sur certains aspects des soins aux animaux, il nous reste beaucoup de boulot à abattre. Il y a des domaines où nous n'avons pas la science ni la recherche pour faire ces recommandations basées sur des preuves probantes. Quels étaient les défis? Vous avez vu les listes de ces codes qui ont des comités de scientifiques. Et dans ces comités, il y a 5 ou 6 scientifiques plus un rédacteur en recherche. Si vous comprenez combien de scientifiques il y a au pays, il n'y en a pas suffisamment. Beaucoup d'entre nous devons travailler à double emploi. Et ça a été tout un investissement de la communauté scientifique dans ce processus. Et ce n'est pas simplement de siéger à ces comités, mais aussi le fait que nous avons identifié toutes ces lacunes dans les documents et il y a beaucoup de travail encore à abattre. Il y a tout un rôle pour la science. Ce qui était décourageant pendant ce processus, au cours de la dernière année, nous avons perdu certains de nos scientifiques en raison des coupures à Agriculture Canada. Ces gens ne sont plus disponibles pour travailler sur le comité pour l'élaboration des rapports, mais ça ajoute aux lacunes par rapport à la recherche. Alors, comment avons-vous surmonté les défis? Nous avons travaillé bien tard le soir, comme beaucoup de personnes dans cette salle, d'ailleurs. Alors, nous devrions être très fiers de l'engagement de toutes ces personnes. Qu'est-ce que le code offre? Qui va pouvoir en profiter? Le comité, le secteur, les animaux eux-mêmes? Nous avons pu apporter un équilibre en voyant à ce que nous puissions regrouper la documentation de toutes les différentes perspectives. Il faut comprendre que les codes seront un document vivant, que nous allons continuer à apprendre d'autres choses, que nous allons ajouter les résultats scientifiques et que ça ne sera jamais terminé, ce qui était un peu décourageant aussi. mais d'autre part, on veut apporter des améliorations de façon continue. Le bien-être est un bien public. Les scientifiques sont une partie essentielle du processus et l'industrie soutient la recherche, mais il faut voir est-ce qu'il y a encore un rôle pour le gouvernement pour soutenir la science pour le soin aux animaux au Canada. Merci. Merci. Ryder a déjà fait un commentaire sur le fait d'avoir les joueurs appropriés autour de la table. Donc, je ne vais même pas y revenir. J'ai appris cela moi-même. Mais les agricultures sont taciturnes. Les fermiers sont taciturnes. Se plaignent souvent du prix, de la température, de la partie de hockey. Mais les autres aiment entendre les agriculteurs, pardon, eux ne se plaignent jamais. Ce sont les autres. Et ceux qui sont en politique, ceux qui aiment s'écouter parler, et ils vont répéter les mêmes choses, mais dans d'autres termes. Et tout cela peut en faire en sorte qu'il y ait un méli-mélo. Et comme un jeune qui rentre d'une grande fête à 2 heures du matin, parfois, il faut le rappeler à l'ordre. Et dans notre processus, celui qui rappelle à l'ordre, c'est parfois un agriculteur qui pose une question très simple et qui fait en sorte que les autres puissent s'unifier. Lorsque nous parlions du coupage, toutes les possibilités, tous les médicaments qui étaient disponibles, et lorsque quelqu'un a parlé de doses qui seraient nécessaires, et c'est pour un agneau de 8 livres à qui on doit couper la queue, et le concept d'administrer 0,25 millimètres d'un médicament. C'est un petit agneau de l'élever, de le tenir comme un participant, d'essayer de l'injecter dans cette petite queue de l'agneau avec une anesthésie. Et le côté pratique vient en lumière, et nos amis du côté des politiques, tout d'un coup, vont vers un concept qui fonctionne pour 90% du temps. Les bureaucrates et ceux des politiques aiment parler de toutes sortes de concepts. Lorsqu'on parlait de l'euthanasie, on a suggéré au départ qu'il fallait faire l'euthanasie sans plus tarder, et il fallait voir quelle était la différence entre une procédure immédiate, une procédure sans délai. Il faut regarder le temps nécessaire, et lorsqu'on parlait d'euthanasie immédiate, on s'inquiétait de certaines choses, mais après beaucoup de temps, sans tarder, ça semble être une bonne chose à faire plutôt que dans l'immédiat. Quels étaient les défis les plus énormes? Ryder a vraiment tombé dans le mille dans notre secteur. Il y a des mauvaises perceptions selon lesquelles processus de code provenait du gouvernement, et que les extrémistes en bien-être des animaux prenaient le dessus, et la mission était de défendre et pas de participer. L'envers de la médaille, il y a une perception selon laquelle les fermiers doivent être guidés par des plans de gestion grandioses avec des procédures d'opération normalisées. Bien sûr, lorsqu'il y a 4 000 ou 5 000 têtes d'agneaux, par exemple, c'est une chose, mais lorsque une personne, une petite exploitation avec 100 animaux, il faut faire des mises à jour différentes. Et la seule façon de surmonter ces obstacles, c'est de parler. Et parler de façon respectueuse à la table. Et dans notre code, ça s'est très bien passé. Donc, qu'est-ce que ces codes vont faire pour notre secteur? Nous, le secteur ovin, ou le groupe porcin, le groupe de la volaille nous ont précédés. Ils ont pu aller de l'avant et nous précéder. Et le code va fournir à notre secteur de bonnes lignes directrices pour le soin des animaux et pour le bien-être de ces animaux. Et les annexes que nous avons choisi d'inclure seront des ressources très utiles. On pourra les retrouver en un seul endroit. Les gens n'auront pas à chercher partout pour trouver de l'information. Tout sera regroupé en un seul document. Et vous savez, 85% de notre secteur, les pratiques ne seront pas changées. Nous avons tombé dans le mille pour le code, mais certains devront s'adapter, et surtout en ce qui a trait aux relations avec les clients, avec les vétérinaires. Il y aura des défis dans certaines régions du pays parce qu'il y a un manque de vétérinaires dans certaines régions qui ont une responsabilité pour les petits ruminants, et il faudra travailler, surmonter ces obstacles avec les vétérinaires pour savoir comment faire. Et pour maintenir cet engagement, qu'est-ce qui est nécessaire? C'est intéressant. En passant à travers ce processus, lorsque nous avons fait les consultations initiales, les producteurs disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler des codes, d'aucun code, mais qu'ils avaient une copie de l'ancien code sur la tablette et ils faisaient référence. Moi, j'ai travaillé pour la Fédération des ovins. Et nous faisons des visites à la ferme. On pouvait voir de la façon dont on gérait la grange. On suivait les anciennes pratiques, même s'ils savaient qu'ils ne savaient rien du code. Ils le connaissaient quand même, ce code.
Les producteurs ne vont pas télécharger un document de 145 pages du web et le mettre dans un classeur. Ils ne vont pas s'y référer en ligne. Ils vont le regarder en ligne, mais ils ne vont pas s'y référer en ligne. Ils ne vont pas l'utiliser comme ça. Donc je crois que pour que les gens s'engagent, il faut trouver une manière de le distribuer avec des copies papier à travers les organisations provinciales, régionales. Et puis il faut que ce soit dans les bulletins provinciaux également, comme éducation continue. Je pense que ceci, ça marchera. Et la dernière chose que j'ai apprise aussi dans ce processus, c'est que tout ceci est possible grâce au professionnalisme de la communauté scientifique, la communauté des gens qui s'occupent du bien-être des animaux et puis des producteurs. Tout le monde s'écoute et il y a du respect. Il y en a qui ne sont pas très respectables, mais bon, ils s'écoutent les uns les autres. Et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes et des points de vue différents, mais finalement, on réalise tous qu'on est là pour les mêmes raisons. Et c'est pour le bien-être des animaux dont nous nous occupons. Et comme Tina l'a dit, c'est quelque chose dont le Canada doit être fier. Tous ceux qui ont été impliqués dans le processus d'élaboration des codes devraient être fiers. Et voilà, j'en ai terminé.
I will come up here and...
Je vais venir ici si vous avez des questions. Peut-être que vous avez des questions entre vous, l'un pour l'autre. J'ai vu, non? Donc, merci beaucoup. J'allais lui dire... J'ai rencontré ce gars-là. Il venait à des rencontres avec ses tableaux organisationnels, avec des tableaux, des flèches, des ci, des ça. Mais ça a marché. Donc, merci beaucoup. Nous avons beaucoup de temps pour les questions. Qui veut commencer pour ça? Qui... Oh, on en a une ici. Bon. Je comprends qu'il y a des exigences, des recommandations. Et dans le code pour les bovins, vous avez mis tout ceci ensemble et la plupart des producteurs ont peur que les recommandations deviennent des exigences à la prochaine, au prochain document. Donc, on voudrait que ça soit mis dans deux documents séparés. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Oui, c'était très clair ce que vous pensiez. Et j'aime bien ce processus de commentaire parce qu'on a eu des centaines de commentaires. Il y en a même qui ont été utiles. Non, je rigole. La plupart d'entre eux étaient utiles. Il y a beaucoup de commentaires assez forts. Et lorsqu'on voit la version finale et l'ébauche, bon, il y a eu des changements. Il y a des choses qu'on a oubliées, puis on en rigole entre nous qu'on ait oublié ça. Mais en fait, ça, c'est le format qui a été choisi. Ce sont des recommandations pour de bons soins aux animaux. Pourquoi est-ce que quelque chose est une exigence? Bon, il y a certains obstacles à dépasser pour que ça devienne une exigence. Il faut que ça soit applicable tout le temps. Il faut que ce soit quelque chose qui peut être évalué de manière active. Donc, c'est plus difficile de faire une exigence qu'une pratique recommandée. Une pratique recommandée, on ne peut pas toujours l'appliquer ou on n'en a pas toujours besoin pour avoir de bons résultats. Donc, la peur que les pratiques recommandées deviennent des exigences, bon, c'est quelque chose de réel. Il y a des gens qui ont des expériences avec la réglementation environnementale. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Et bien sûr, la barre continue à changer. Et ça préoccupe beaucoup de producteurs. On a eu des conversations... Mais on a dit que bon, ça n'allait pas arriver. Mais ce qu'on essaye de faire, on a changé la préface un petit peu pour déclarer ce qui est une recommandation, ce qui est une exigence et comment ça doit être utilisé par rapport au comité, au CNSAE. Et donc, on a les annexes aussi. On a dit, voilà, ça c'est quelque chose de différent de ce qui précédait. Donc, le groupe était à l'aise avec ce que nous avons fait. On ne peut pas dire ce qui va se passer et qui va faire quoi avec ce code de pratique. Peut-être qu'ils vont utiliser une petite citation d'une manière complètement différente de ce qu'on avait l'intention pour cette partie-là. Peut-être qu'ils se référeraient à un code de pratique ou à un autre document. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est ça ce que le comité a fait. C'est ce sur quoi ils se sont mis d'accord pour l'élevage du bétail au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y en a une derrière. Fred, est-ce que tu avais un commentaire? J'allais ajouter que c'est quelque chose auquel on doit penser pour maintenir l'engagement. Parce que dans le secteur de la production, il y a une vraie préoccupation que ça va être quelque chose qui va arriver insidieusement et qu'il y aura une pratique recommandée qui va devenir une exigence. Donc, il faut vraiment que les producteurs soient au courant. Que et que lorsqu'ils en apprennent plus, qu'il y aura des changements. Il n'y a rien qui est statique. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est une pratique recommandée, ça ne veut pas forcément dire que ça va être une exigence plus tard. Il ne faut pas qu'ils aient peur que c'est ça ce qui va se passer. Ce n'est pas obligatoire que ça se passe comme ça. Une autre question ? Alors, nous voyons que les codes sont développés en ce moment et nous avons entendu les gens qui parlaient de la prochaine étape, que ce serait de vérifier sur le terrain. Comment est-ce que vous voyez ça ? Qui devrait le faire ? Et est-ce que quelqu'un au panel a pensé à cette question ? Est-ce que vous avez des propositions sur comment aller de l'avant avec ça? Alors, qui voudrait parler de ceci? Merci, Jeff. C'est une très bonne question. Et moi, je l'ai déjà posée. Il y a d'autres... Il y a d'autres choses sur l'évaluation à l'ordre du jour pour le reste de la conférence. Il y a des associations de l'industrie qui ont déjà de l'avance parce qu'ils ont déjà des programmes d'évaluation. Et les associations qui l'ont fait ont de l'avance parce qu'il y a déjà des infrastructures, surtout dans les productions gérées par la gestion de l'offre. Donc, chaque association de l'industrie va devoir prendre toutes les possibilités pour que ça arrive de la manière la plus pratique, en utilisant des infrastructures qui existent déjà pour d'autres évaluations, comme par exemple la sécurité, la salubrité alimentaire, par exemple. Il ne faut pas créer tout un nouveau système. Donc, c'est peut-être ça qu'on voit avec les producteurs fermiers, les producteurs laitiers, pardon, qui ont déjà... commencer un processus pour l'évaluation et un programme. Mais bon, à la fin de la conférence, on verra ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le panel qui voudrait commenter cette question-là? Fred? Non? Ryder? Mais Jeff en a déjà parlé. On est allé au CNSAE et on a demandé à faire partie du processus d'évaluation du code. Et donc, nous avons une politique à l'Association des éleveurs de bétail canadiens. Et parce que le CNSAE développe ce code, ça ne veut pas dire que qui que ce soit doit l'appliquer. Parce que nous, il faudrait avoir un cadre d'évaluation. Et c'est comme ça qu'on pourrait faire ce programme d'évaluation. Le CNSAE ne va pas aller frapper à la porte des gens en disant « Hey, vous, là, on a ça, il faut l'utiliser. » Mais c'est à vous et aux réalités de votre industrie de s'adresser à ça. Mais il faut qu'on le fasse. Et donc ça, c'est une bonne manière de le faire. Il faut passer à travers ce processus. C'est l'industrie qui doit prendre le leadership. Est-ce qu'il y a des questions, autre chose? Est-ce que je peux poser une question? Une question pour Tina. Tu as mentionné les rapports scientifiques et ce qui sont utilisés par les comités. Ils sont publiés en ligne. Est-ce que vous voyez qu'ils sont utilisés en tant que ressources? Je crois que les gens dans le monde entier vont les utiliser. Ils sont en ligne. Et je sais que le comité scientifique a utilisé des rapports qui proviennent d'autres parties du monde. L'autorité sur la salubrité alimentaire européenne a un bulletin. Et donc, je crois qu'ils vont être utiles pour d'autres choses également, oui. J'espère qu'ils le seront. Donc, je vois dans la pièce. Alors, moi, j'ai une question. Ryder. Alors, l'étendue de vie du code, qu'est-ce qui serait idéal pour vous et pourquoi? Ça, c'est quelque chose dont on a parlé au CA du CNSAE. moins de 22 ans. Ça, c'est un point de départ. On parlait de le revoir tous les 5 ans et de le renouveler tous les 10 ans. Donc ça, c'est assez, assez solide. Du point de vue des changements, petit à petit, c'est mieux que de le faire comme ça que d'un seul coup. Et si on le revoit tous les 5 ans, ça nous dit ce sur quoi on doit travailler, surtout du point de vue de la recherche, et ça nous aide à le faire aussi. Donc, la grappe scientifique pour le bœuf a déjà été annoncée il y a un petit moment. Donc, on va voir quelles sont les questions sur le bien-être qui font l'objet de recherche. Et dans 5 ans, si on renouvelle le code, j'espère qu'on va renouveler la grappe aussi, la grappe de recherche. Donc, tout ceci va ensemble. Il va falloir équilibrer les ressources du Conseil, parce que de faire 8 codes en même temps, vous avez déjà entendu Edouard, Jackie et Tina en parler. On n'a pas... Oui, on l'a en fait, mais bon, ce n'est pas juste d'essayer de faire ceci sans arrêt. Sans avoir tout un tas d'argent du fédéral, on n'a pas l'argent, les ressources pour le faire en même temps. Donc, dans 5, 6, 7 ans, peu importe comment on va pouvoir établir les étapes. Je pense que ce serait juste de le faire comme ça. Je ne pense pas que nous allons repartir comme avant et laisser passer 22 ans. Est-ce qu'il y a une question? Cassie Vanderbloom pour l'association du bétail. Nous sommes impliqués dans un processus pour faire l'évaluation des parcs d'engraissement, pour évaluer la composante bien-être des animaux. Alors, s'il y a un nouveau code pour le bœuf, c'est une plateforme de départ pour développer des pratiques qui vont être vraiment spécifiques pour les parcs d'engraissement. Alors, comment est-ce que vous pouvez voir l'utilisation du code? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que d'autres industries pourraient faire la même chose, l'utiliser comme outil pour raffiner les pratiques qui sont plus particulières à un certain aspect de la production? N'importe qui, Ryder. La première chose que je dirais, notre industrie et la diversité que nous avons est un petit peu différente. On ne fait pas un code pour chacun, comme dans l'industrie de la volaille. Il y a des codes différents. Ça, c'est différent. Mais moi, je voudrais savoir ce que Jeff en pense. Je pense que c'est super si vous l'utilisez comme base, que vous utilisez les parties pertinentes, si vous pouvez faire que ce soit accepté par toutes vos parties intéressées. Moi, je pense que c'est bien. C'est ce qu'on espérait voir comme utilisation pour notre code. Oui, je crois que c'est super si ça peut être utile comme ça. Et je crois que le CNSAE... Je pense que le CNSAE voudrait voir ceux qui sont intéressés à développer un programme d'évaluation comme les producteurs laitiers l'ont fait. Ça serait bien que ce soit fait. Et puis finalement, c'est bien qu'un secteur commence avec la composante qui est au plus bas de l'échelle, comme par exemple les parcs d'engraissement. C'est bien de faire de l'évaluation à ce niveau-là. C'est un endroit très, très raisonnable où commencer, mais il faut qu'il y ait de la transparence sur ce que ça veut dire lorsqu'on en parle de ce programme d'évaluation, que c'est le bien-être et la manutention des animaux dans le parc d'engraissement, mais pas sur comment l'opérateur faisait ses affaires avant qu'il arrive au parc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une autre derrière. Pourriez-vous présenter Guy Séguin, PLC? Le sujet... les attentes de la société. Alors, vous avez écrit le code. Et bon, il y a une certaine ligne. Qu'est-ce que vous suggériez que l'on fasse pour les gens qui ne respectent pas le code? Ça, c'est une question facile. Fred, tu veux commencer? Bien sûr. Je ne pense pas que c'est du bon sens d'essayer d'avoir une politique générale pour couvrir tous les problèmes potentiels et d'avoir quelque chose qui ne règle rien, en fait. Lorsqu'il y a des problèmes, les problèmes devraient être identifiés et on devrait les régler. Ça va prendre une certaine détermination, mais je crois qu'on peut le faire. Dans le secteur des ovins, il va y avoir un petit groupe qui est impliqué dans certaines situations. Ils vont être vraiment un peu plus petits quand il va y avoir le code. Ils vont couiner, se plaindre, mais ils peuvent changer si le code était mis en application. Ça prend juste une situation à la foire royale d'hiver où les moutons sont attachés, ont la queue coupée trop court, par exemple. Quelquefois, il y a 80% des agneaux qui sont tués à cause des mouches. Donc, il y a le coupage de queue, mais il y a une certaine longueur admissible. Et ça prendrait juste une année à la foire d'hiver de Toronto et qu'il y aurait un animal qui soit rejeté à cause de sa queue coupée trop courte. Bon, c'est sûr, ça va avoir des conséquences. Donc, c'est ça. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est la mise en application qui doit être faite. Les personnes qui contreviennent au code doivent être identifiées et des mesures doivent être prises. On ne peut pas identifier chacun des problèmes qui peut arriver, mais il faut le faire pour chaque problème. D'autres commentaires? On devrait, oui, agir. Oui, le code, c'est tout le processus de la sélection de la génétique jusqu'à la fin de la vie. Et donc, certaines des exigences qui ne sont pas respectées, il y en a que c'est pire que d'autres. Il y a certaines exigences qui sont des exigences réglementaires. Donc, l'agence va s'impliquer si vous ne les satisfaisez pas et leurs pénalités sont... Leurs pénalités, je veux dire, sont vraiment importantes. Donc, mais il y a certaines choses qui vont simplement ressortir entre vous et votre voisin. Et c'est là où les conseils et tout un tas d'autres associations peuvent s'impliquer. Ça dépend vraiment de la situation, de ce qui est arrivé. Et comment est-ce qu'on peut corriger les choses? Il faut vraiment s'approprier ce code pour que ça marche. Personne ne peut être partout, tout le temps, pour s'assurer que moi, je suis un bon papa, par exemple. Hein? Et puis, bon, bah, je fais des trucs, des fois, qui sont pas... Mais bon, il faut vraiment s'approprier le code. Et chaque industrie va le faire de manière différente. Mais il y a également un grand éventail de choses dans ces codes. Et donc, les attentes sont différentes. Bon, vous allez avoir un résultat négatif en ce qui concerne le bien-être des animaux. Et puis, ça va vous dire à vous que quelque chose doit être changé. Jeff, est-ce que tu as des commentaires à faire pour la Fédération des SPCA. Peut-être que je demanderai à Kelly de la SPCA de la Saskatchewan, parce qu'elle, elle est, c'est une agente. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne respectent pas le code? C'est ça ce que vous me demandez? Oui? En Saskatchewan? Vous voulez que je me lève? Donc en Saskatchewan, les codes de pratique du CNSAE sont dans la loi pour la protection des animaux. Ça fait donc partie de la loi. Et si nous avons une plainte sur quelqu'un qui fait quelque chose qui va à l'encontre du cadre de pratique, ça serait facile pour faire quelque chose. On travaille avec le producteur pour souligner quel est le problème, et donc s'il ne le corrige pas, on peut leur prendre leurs animaux, il peut y avoir des problèmes selon la loi. Donc, selon moi, le code rend les choses assez faciles. Si on a une plainte, si on reçoit une plainte, ce que je voudrais voir, c'est si quelqu'un a ces modèles d'évaluation des animaux dans votre groupe de production et que c'est dur de rectifier la situation et qu'ils ont, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas respecter le code, à ce moment-là, ils pourraient appeler une agence, peu importe laquelle, pour qu'ils règlent la situation. Est-ce que ça répond à votre question? Merci beaucoup. Et vous aviez une question? J'avais une question. Je ne suis pas sûre que je m'en rappelle. Donnez-moi une petite minute. Bon, je ne suis pas la seule. Pensez-y. Moi, j'allais faire un commentaire. Les foires, par exemple, les expositions. Et d'après mon expérience au Stampede de Calgary, je pense qu'on peut voir ça lorsque les codes vont ressortir. Moi, je pense aussi aux chevaux et au coupage de queue des chevaux. Oui, je me suis rappelée de ma question une fois que je me suis assise. Vous voyez comment ça marche? Et ça se relie, c'est relié à ce dont on parlait. C'est plutôt pour Ryder et pour Fred. Est-ce que vos organisations de producteurs ont une stratégie pour disséminer ces codes qu'ils arrivent aux producteurs? Et je ne parle pas simplement du 20 à 25% de ceux qui font déjà quelque chose, qui lisent les journaux et qui font déjà du très, très bon travail. Moi, je parle du 5% de gens, les gens dont moi je m'occupe, qui ne lisent pas les bulletins, qui ne sont pas informés. Est-ce qu'il y a une certaine stratégie pour que ces gens reçoivent la documentation? Ça, c'est quelque chose de difficile. Notre stratégie, c'est d'avoir un programme de vérification de la production du bœuf et puis la biosécurité. Et donc, on va d'abord aller aux rencontres. Celui qui habite à côté d'Ottawa et puis qui a des bœufs qui servent pour tondre le gazon. Bon, c'est pas la même chose que quelqu'un qui dépend des ruminants pour gagner leur vie. Donc ça va continuer à être un combat pour nous. Si vous avez de l'herbe et que vous allez à l'encamp, vous pouvez avoir des vaches. Donc, pour moi, vous ne faites pas partie de mon compte, des habitués de mon compte Twitter, et vous ne lisez pas nos bulletins. Donc, je ne peux pas dire qu'on sache vraiment comment le faire. Notre directeur scientifique et moi, nous nous parlons tout le temps, depuis longtemps, sur comment est-ce qu'on peut communiquer ce que l'on veut aux gens, parce que ce dont on essaie de se débarrasser, ça continue à être présent. Donc, ce n'est pas un problème qui est facile à résoudre. On continue à travailler là-dessus. Quelqu'un d'autre voudrait en parler? Comme Ryder l'a dit, c'est vraiment un combat. Dans le secteur des ovins, c'est probablement le groupe le plus facile, à part celui des caprins. On a très peu d'investissements à faire. On peut avoir des animaux à la maison, 5 ans, et ensuite on peut s'en débarrasser si les prix chutent ou si on en a marre. Parce qu'ils sont mignons, il y a beaucoup de gens qui veulent en avoir pour que les enfants s'amusent avec. Et ils ne réalisent pas que il y a beaucoup plus de responsabilités que de juste payer et de ramener les animaux à la maison. L'agence pour les ovins a une manière d'éduquer ce genre de gens. Je ne sais pas comment ça se déroule dans le reste du pays. Par contre, il y a des organisations provinciales qui ont les ressources pour que ça arrive, mais d'autres non. Donc ça dépend vraiment des dons, des bénévoles, et ils n'ont pas les ressources pour atteindre ces gens-là. On a essayé, et les fermiers étaient d'accord avec le processus. On essaie d'avoir certaines exigences dans notre code pour qu'il y ait un plan de gestion de mise en place, pour que ce genre de gens réalisent qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe et qu'ils aient une idée de ce dans quoi ils s'engagent avant d'acquérir ces animaux. Parce que ce ne sera pas facile, forcément. Et quelquefois, bon, les gens ne comprennent pas les documents ou ils s'en fichent carrément. Parce que comme Ryder l'a dit, ce ne sont pas des producteurs. Ils pensaient que ça peut être un truc de rigolo à faire pour un petit bout de temps. Donc ça peut être vraiment difficile. Je ne crois pas qu'on ait une bonne stratégie, mais je sais que c'est sur le radar. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour une bonne pause, d'avoir des bonnes discussions. Oh, merci. Conseil canadien du bœuf. Après la question précédente, je me demandais si les gens pouvaient répondre si les codes de pratique sont incorporés dans la loi provinciale dans les autres provinces. On a vu que c'est fait en Saskatchewan et je me demande si c'est la même chose dans d'autres provinces.
Qui souhaite répondre, Ryder ou Jeff? Pas en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, la loi fait référence à des pratiques généralement acceptées, raisonnables, et nos constables les utilisent de façon éducative lorsqu'ils répondent à des plaintes dans d'autres provinces. L'Alberta et l'Ontario. Je ne crois pas qu'on y fait référence directement, mais il y a peut-être une situation semblable, mais il y a peut-être quelqu'un des ministères des provinces qui peuvent mieux répondre que moi, et le Manitoba les a dans les règlements. Dans l'Atlantique, oui, Terre-Neuve y fait référence dans leur réglementation. Donc, c'est différent. Dépendant d'où on se trouve. Ils sont utilisés d'une façon ou d'une autre par les agences d'application dans chaque province, même si ce n'est que pour servir de preuve de ce qui constitue des pratiques généralement acceptées, même sans référence à la loi. Alors je pense que c'est un bon résumé.